Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission Le Monde est à nous, consacrée aujourd'hui à l'impact des réseaux sociaux sur nos vies.
Avant d'entrer dans le détail, une définition des réseaux sociaux s'impose. De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'est un réseau social? Les réseaux sociaux sont soit un site internet, soit une application qui permet de communiquer avec des gens sous différentes formes, comme des messages, des vidéos, des posts, et tout ça en temps réel.
Le tout premier réseau social est 6degrés.com, apparu en 1997. Il permettait déjà d'envoyer des messages à ses contacts, de créer des profils et de se constituer un réseau social amical ou professionnel. Mais vous ne serez pas étonnés, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, est souvent dessiné comme le père fondateur du concept. Pourtant, ce n'est pas lui qui l'a inventé.
Merci pour ces informations. Alors, pour commencer, combien de temps, à votre avis, passons-nous sur les réseaux sociaux? Voici quelques statistiques. Chez les jeunes, la moyenne par jour est de 6 heures. Si, vous avez bien entendu, 6 heures.
Non, mais c'est fou!
Certains ados peuvent y passer jusqu'à 11 heures. Mais les gens raisonnables comme nous y passons environ 4 heures par jour.
C'est déjà pas mal. Pendant les cours ou hors des cours?
Trêve des plaisanteries. Il est urgent de réfléchir à ce qu'on y fait. C'est le moment de retrouver notre rubrique « Les hauts et les bas du débat » pour y voir plus clair. Aujourd'hui, Manel, Isée, Bahati, Farah, Eloa et Anis, de jeunes collégiens accros au réseau, vont échanger leur point de vue sur la question. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, j'imagine que vous adorez les réseaux sociaux.
Alors, pour commencer, donnons la parole à Isée.
Bonjour. Merci de m'avoir invitée. Alors pour moi, les réseaux sociaux sont plutôt bénéfiques. Je m'explique. Pour commencer, nous pouvons facilement s'informer et apprendre d'une manière différente de ce que nous apprenons au collège. Par exemple, certains comptes postent des vidéos d'actualité du jour, comme Hugo Décrypte, qui régulièrement nous informe sur le sport, sur l'art ou encore sur la politique.
Les fake news sont de fausses informations pour corrompre la société. Elles créent des rumeurs qui peuvent influencer l'opinion d'autrui. De plus, les fake news sont beaucoup plus répandues sur les réseaux sociaux et touchent la plupart du temps les jeunes. Selon une étude réalisée par des étudiants, près de 60% d'utilisateurs de réseaux sociaux sont dupés.
Je suis d'accord. En plus de ça, les jeunes sont de plus en plus accros aux réseaux sociaux.
Mais encore ?
L'addiction que provoquent les réseaux sociaux a plusieurs impacts sur les jeunes, comme une diminution de l'activité physique, le renfermement sur soi-même, il y a des troubles de l'attention, alimentaire, concentration, ou encore des traumatismes dus à des contenus pornographiques et ou violents. Le temps d'écran chez les jeunes a considérablement augmenté et est actuellement de 6 heures par jour environ.
Mais ne pensez-vous pas que ces chiffres sont justifiés? Nous pouvons parler à distance sur différentes applications de communication tout en étant divertissants.
Sachant que certains jeunes vérifient leurs notifications entre 2h et 4h du matin, je pense qu'il serait plutôt préférable de mettre un terme à cette communication.
Oui, mais ne pensez-vous pas aussi utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes? Cela nous permet d'échanger avec différentes personnes à propos de sujets sensibles et d'échanger les points de vue. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, on peut s'ouvrir à différentes cultures.
Mais pas que, les réseaux sociaux ne servent pas qu'au divertissement. Ils peuvent être une vraie source d'aide.
Ces derniers temps, la dépression est en hausse chez les jeunes. Et se confier virtuellement sans être en face à face peut énormément faciliter les choses. On peut se sentir plus libre de s'exprimer.
En effet, les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de nos vies. Mais il est important de reconnaître que leurs contenus peuvent parfois être inadaptés. Il est vrai qu'ils offrent une plateforme pour s'exprimer et partager des expériences. Mais malheureusement, cela peut conduire à la diffusion de contenus inappropriés, des discours incitant à la haine et des images choquantes qui affectent notre bien-être émotionnel.
Je suis d'accord avec toi, mais les réseaux sociaux peuvent aussi offrir une visibilité et une influence positive.
Comment ça ?
Oui, ils permettent aux individus de partager leurs passions, leurs talents avec un large public. Les réseaux sociaux peuvent être une plateforme puissante pour promouvoir des messages positifs ainsi que créer des mouvements de changement sociaux, comme l'hashtag MeToo.
Développez donc ?
Le hashtag MeToo a permis à de nombreuses femmes de s'exprimer sur les violences qu'elles avaient subies à cause de leur genre. Mais les réseaux sociaux ne font pas que ça. Il est même encourageant de voir comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour transmettre de la bienveillance.
Merci à tous pour ces échanges très constructifs. Il est clair que les avis sont partagés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas un problème en soi. Le problème, c'est la manière de s'en servir. Chacun doit se montrer responsable et faire attention à ce qu'il fait sur les réseaux. Vous comme moi.
Intéressant. Ils sont lucides finalement, les ados?
Lucides, mais accros. Comme le chante Soprano dans son titre Mon Précieux. Allez, pause musicale, sûr que ça va vous rappeler des souvenirs.
Message.
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Les gosses sont plus toboggans, ils préfèrent jouer avec toi. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Tu ne regardes plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mais tu n'as plus appelé, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard fixé m'a envoûté. Toi, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Mon précieux, mon précieux, mon précieux. Quand tu es seul ou quand tu commences à vibrer, je perds la tête, comment pourrais-je te quitter? Toi, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Mon précieux, mon précieux, mon précieux.
Je deviens fou, l'impression que mon cours ralentit. J'ai plus de repères, je suis perdu. Depuis que tu n'as plus de batterie. Oh, 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 mon précieux, 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 mon précieux.
Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. LOL. LOL. LOL.
Eh oui, chers auditeurs, les réseaux, c'est bien beau, mais il faut y aller mollo.
Afida, Naël et Robin se sont penchés sur la question, en particulier sur la désinformation qui règne en maître sur les réseaux. Retrouvons-les pour la chronique du jour.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans notre nouvelle chronique sur la désinformation. C'est une fake news, attention aux fake news. On entend souvent ces expressions pour évoquer le flot des informations qui polluent sur les réseaux sociaux. Mais alors, la désinformation, qu'est-ce que c'est?
Toute information se base sur des faits. Ce qu'a dit quelqu'un, le résultat d'un match de foot, la température à un endroit donné. Chaque journaliste va ensuite essayer de rapporter au mieux des événements à partir de ces faits objectifs.
Mais certaines personnes ou sites internet sont prêts à faire circuler de fausses informations. Par inconscience, par bêtise ou méchanceté, ou encore pour servir leurs propres intérêts ou soutenir leurs idées.
Une fake news, c'est donc une fausse information créée pour nuire à un groupe de personnes, une communauté ou un pays. Par exemple, la Russie a répandu de fausses informations pour expliquer son attaque contre l'Ukraine. Ou encore, certains médias ont annoncé la mort du président de Corée du Nord. Pour d'autres, le vaccin contre le Covid-19 contiendrait des puces électroniques pour nous traquer et ficher.
Mais la désinformation, ça peut aussi être de simples rumeurs propagées sur les réseaux. Une information involontairement déformée, ou une information vraie mais manipulée pour servir une idéologie ou discriminer quelqu'un. C'est par exemple citer des chiffres mais mal les interpréter, montrer des images qui ont été retouchées pour en dénaturer le sens.
C'est comme ça que pendant l'épidémie du Covid, une statistique sur le nombre de morts parmi les vaccinés a servi à discréditer le vaccin et faire croire qu'il était dangereux. Oui, les personnes décédées étaient bien vaccinées, mais elles sont mortes de complications liées à leur état de santé, pas du vaccin.
Les fake news entraînent de graves conséquences. Manipulation des opinions, influence électorale, tension internationale, atteinte à la réputation des individus ou des entreprises, inefficacité des campagnes de santé publique. Toute la vie sociale est menacée par la désinformation.
Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Là est le danger. C'est un peu la jungle. De la plus crédible à la plus farfelue, les fausses informations y pullulent. Alors, vrai ou faux, réalité ou manipulation? Les réponses à ces questions ne sont pas toujours faciles à trouver dans la jungle d'Internet. Voici quelques conseils pour éviter de vous faire avoir.
Premièrement, pensez à identifier les sources de ces informations. Qui parle? À qui? Dans quel média?
Deuxièmement, vérifiez si le média est sérieux et reconnu.
Troisièmement, quelle est la date de l'information? La date d'un événement? Ces dates correspondent-elles?
Quatrièmement, s'agit-il d'une information neutre, objective ou d'une opinion et d'un point de vue individuel?
Cinquièmement, vérifiez la diversité des sources. Trouve-t-on la même information dans plusieurs médias?
Sixièmement, ou encore, croiser la même information dans des différents médias pour prendre du recul et se faire sa propre idée. De quelle façon est traitée cette information dans les autres médias? Comparer.
Septièmement, chercher les informations objectives et officielles.
Et enfin, si vous pensez que l'information est fausse, signalez-la tout de suite au site où vous l'avez découverte.
Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias.
Merci les amis. Mais quoi de mieux que l'avis d'un professionnel sur la question? Alexis, Hassan, Nils et Isée ont interrogé Adrien Beria, journaliste de France Bleu Bourgogne.
Bonjour Monsieur Beria. Donc vous êtes journaliste à France Bleu Bourgogne et aujourd'hui nous voudrions vous poser quelques questions sur votre métier et sur le rapport des jeunes à l'information.
Pour commencer, en quoi consiste votre métier?
Alors mon métier, c'est celui d'un reporter radio. Reporter radio, c'est quand tu vas sur le terrain pour récupérer des informations et pour raconter quelque chose. Donc tu pars avec un sujet, un accident, un incendie ou au contraire une belle histoire. Tu vas rencontrer des gens qui font des choses, hein, grosso modo c'est ça. Et tu reviens après pour le raconter dans un journal radio, pour que ce soit écouté par des auditeurs dans les journaux, radio. Donc ça peut prendre plein de formes, des reportages, mais la base c'est toujours ça, c'est toujours un reporter qui va quelque part ou qui appelle quelqu'un ou qui prend des informations, qui le synthétise et qui le fait créer un reportage pour le faire écouter à d'autres gens.
Et quelle formation avez-vous suivi pour devenir journaliste?
Alors j'ai fait, après le bac, j'ai fait Sciences Po à Aix, un des IEP, donc avec au début une sorte de tronc commun à tous les Sciences Po, après une année à l'étranger, en Amérique du Sud, au Chili, et puis après un master en journalisme à Sciences Po, et derrière une école de journalisme à Paris. Et ta question, c'est sur la formation. Donc après cette école de journalisme, j'ai eu un diplôme du CFJ, le Centre de Formation des Journalistes, qui est l'une des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession, par les journalistes.
Et comment on débute dans le métier?
Donc c'est un long processus pour débuter dans le métier. Une fois que tu as ton diplôme de journalisme, tu dois trouver une radio pour t'embaucher. Bon, donc je vais vous raconter mon cas particulier à moi. À la sortie de l'école de journalisme, j'ai fait des stages pendant l'école de journalisme même. Des stages à France Info, des stages dans des France Bleu, à Pau, à Nice, des stages à Paris, des stages dans d'autres radios aussi, à RMC Sport. Et puis après, tu toques à la porte de rédaction en disant « Ben voilà, je suis jeune journaliste, j'ai un diplôme, j'ai envie de travailler. Voici mon CV, voici ma lettre de motivation. Est-ce que vous voulez m'embaucher ?» On te dit « Oui, très bien. Au début, on va vous tester sur une journée, deux journées. » Et là, tu deviens ce qu'on appelle pigiste. C'est-à-dire que tu es payé à la journée. Tu viens, tu fais des reportages, tu présentes des journaux. On te paye à la journée. Ensuite, tu passes un petit concours pour être de plus en plus intégré dans France Bleu, dans Radio France. Donc tu fais des remplacements un peu plus longs. Et puis derrière, tu repasses un entretien et on te fait devenir, t'es intégré, t'es titulaire, t'es journaliste, comme moi aujourd'hui à France Bleu Bourgogne, où c'est ma radio, j'y vais tous les jours, je travaille tout le temps à France Bleu Bourgogne. C'est comme ça le processus. Mais t'as autant de journalistes que de parcours, hein. Il y en a qui font de la télé, qui font de la presse écrite, qui après ensuite à la radio, arrivent à la radio. Tu as tous les cas de figure possibles.
Est-ce le métier dont vous rêviez ?
Dont je rêvais quand j'étais petit ? Quand j'étais petit, je voulais être paléontologue. C'est l'étude des dinosaures. Et puis après, vite, j'ai voulu faire du journalisme. J'ai retrouvé des articles que j'écrivais quand j'étais petit, chez mes grands-parents, où j'avais surpris mon grand-père en train de faire du repassage. Et j'avais dit que c'était une info incroyable. Parce que c'était rarement arrivé. Donc j'ai retrouvé des archives comme ça qui prouvent que ça faisait un moment que je voulais être journaliste. Au collège, en troisième, je sais que je voulais déjà être journaliste quand j'avais votre âge. Donc c'est oui, on peut dire que c'est le métier dont je rêvais quand j'étais petit. Ouais.
Dans quel domaine intervenez-vous à la radio ?
Alors quand on est journaliste, on est d'abord journaliste. Après, on peut se spécialiser. Moi, à France Bleu, j'interviens sur deux domaines. Il y a le domaine qu'on appelle l'infogéné, l'information générale. Donc, c'est tout ce qu'il se passe dans la société, la politique, les faits divers, la justice, l'environnement, les loisirs, la culture, tout ce que vous voulez. Et après, dans le journalisme, on a fait une particularité du journalisme sportif. Donc, je commande des matchs de foot. Je suis le DFCO, qui est l'équipe de foot de Dijon, que vous suivez peut-être, qui joue une semaine à domicile à Dijon, une autre semaine ensuite à l'extérieur. Donc, je les suis tous les week-ends pour commenter leurs matchs. Donc commenter leur match, ça veut dire commencer un quart d'heure avant pour faire un avant-match, présenter les enjeux de la rencontre, et puis après décrire ce qui se passe. Donc dire le ballon il est à droite, le joueur va centrer, le but, et raconter tout ça. Et derrière, faire des interviews qu'on va entendre le lendemain matin à la radio. Dijon a gagné, Dijon a perdu, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il en a pensé, les joueurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qui s'est passé de ce match-là, et raconter les moments forts du match, parce qu'on ne peut pas re-raconter tout le match. Ça a duré 2 heures, ce serait un peu long le lendemain matin à la radio. Donc de synthétiser, d'être, ce que je vous disais tout à l'heure, d'être reporter et de rapporter ce qu'on a vu et ce qui nous a le plus marqué quand on était sur le terrain.
Où allez chercher-vous vos sources d'informations et comment vérifiez-vous les informations ?
Alors les sources d'informations, il y en a absolument partout. C'est-à-dire que quand tu vas au café et que tu discutes avec la personne qui te sert le café le matin, c'est une source d'informations. Les sources d'information, c'est les autres médias aussi, quand tu écoutes les autres radios, quand tu lis les journaux. C'est les réseaux sociaux aussi, de certains comptes, de certaines radios, de certains médias, mais pas que. Tu peux avoir plein d'informations qui circulent, qui peuvent servir si tu les recoupes, si tu les vérifies, si tu fais tout un travail dessus. En fait, les sources, il y en a absolument partout. En discutant avec tes parents, en discutant avec tes potes, t'as tout le temps des idées de reportage, des idées de sujets. Tout est une source d'information. Te balader dans la rue, juste en ayant le nez en l'air et en regardant, c'est une source d'information. Par exemple, si tous les jours, pour aller au collège, tu vois que d'habitude, il y a un immeuble, du jour à l'autre, il y a un énorme échafaudage dessus avec des gros panneaux marqués « Attention, très dangereux ». C'est une source d'information. Ça veut dire que bah, y a peut-être un sujet, il y a peut-être quelque chose qui se passe derrière ça, et tu vas avoir envie de le raconter. Donc les sources, elles sont en fait elles sont infinies. Et après, il faut juste les trier et voir celles qui sont valables, celles qui valent quelque chose, et celles qu'il faut laisser de côté. Mais pour être journaliste, il faut être très 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 curieux et fermer aucune porte en se disant non mais ça c'est pas intéressant, ça c'est un tel qui me dit ça. Non, il faut toujours tout absorber, tout écouter comme une éponge, et puis après trier. Et voir ce qui vraiment est vrai, ce qui est vraiment intéressant.
Et est-ce que les jeunes s'informent encore à la radio ?
La question, il faudrait vous la poser à vous. Visiblement, pas trop, selon une petite étude statistique dans la classe. Mais de moins en moins, on va dire. Même si de temps en temps, on a des auditeurs qui nous appellent, qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui écoutent parce que leurs parents écoutent. Mais effectivement, les jeunes écoutent de moins en moins la radio. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les informations de la radio. Hein. Parce que, par exemple, France Bleu, la radio où je travaille, a aussi un site, a aussi des réseaux sociaux. Les informations qu'on fait pour la radio, elles existent aussi sur d'autres supports, sur d'autres médias. Et donc, par exemple, vous, même si vous n'avez jamais écouté la radio, cette information, elle va vous arriver à l'oreille parce que elle est partie de France Bleu, elle est partie du média radio, mais elle a dérivé pour devenir une information qui était sur d'autres supports.
Et selon vous, quelle est la différence entre s'informer sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels ?
La différence, c'est la certitude de la source. C'est-à-dire que quand vous avez un média traditionnel qui écrit un article, on voit à l'intérieur quelles sont ses sources. S'il y a une déclaration, ce sera sourcé. Ce sera à déclarer le président de la République, à déclarer la police, à déclarer les témoins présents sur place. Ce sera toujours identifiable. Quand vous lisez un média traditionnel, vous ne vous demanderez jamais qui parle, mais ça sort d'où, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ce sera toujours, toujours sourcé. C'est la différence avec les réseaux sociaux, où vous avez plein d'informations qui circulent. Certaines sont bonnes, hein, parfois, d'autres sont complètement fausses, mais on a beaucoup plus de difficultés pour trouver la source, pour trouver qui l'a dit au départ, parce que n'importe qui peut vous donner une information. Les réseaux sociaux, c'est comme la rue, dans la rue, des gens qui parlent, mais à l'écrit sur Internet. Tout le monde peut dire n'importe qui sans que ce soit garanti et certifié.
Et vous arrive-t-il de vous informer sur les réseaux ?
A priori, oui, parce que je ne suis pas un mammouth de l'âge de glace, donc oui. Beaucoup même, énormément, parce que c'est une des principales sources d'information aujourd'hui. Toutes les institutions, tous les médias, tout le monde est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Il y a plein d'informations absolument partout. Donc oui, et je pense que tous les journalistes aujourd'hui s'informent sur les réseaux sociaux. L'important, c'est de ne s'informer pas que sur les réseaux sociaux. Et une fois qu'on a l'information sur les réseaux sociaux, de la faire vérifier, avec des témoins, avec des sources officielles, avec tous les moyens qu'on a pour croiser ces sources-là et voir si ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux est vrai ou pas. Mais vous avez parfois des institutions qui sont sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans une affaire de justice, vous voyez ce que c'est un procureur ou un juge, bon, un tribunal, quand le compte officiel du procureur va vous donner une information, bon, celle-là, elle est officielle. Donc, il vous l'a dit en vrai, alors il faut les appeler pour vérifier un petit peu, mais vous avez déjà 90-95% la certitude que c'est vrai, mais parce que vous avez identifié le compte sur lequel cette information a été donnée. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment la difficulté de vérifier la source qui nous donne l'info.
Et quel site fiable pourriez-vous nous conseiller ?
Le site de France Bleu Bourgogne, la radio où je travaille, et globalement les médias, ce qu'on appelle des médias traditionnels. Les radios, des télés, des journaux qui sont considérés comme officiels. Alors comment on sait s'ils sont considérés comme officiels ? C'est une bonne question. C'est de voir les médias renommés, pas forcément ceux qui ont le plus d'abonnés. Hein. Si vous prenez les gens sur les réseaux sociaux, certains comptes, ils ont 100 000, 200 000, 2 millions d'abonnés, et parfois ils disent complètement n'importe quoi. Les médias traditionnels ne sont pas ceux qui ont le plus d'abonnés. Mais c'est des médias réputés, reconnus, qui sont là depuis un moment et qui ont un vrai savoir-faire en termes d'information et pas comme des comptes sur les réseaux sociaux qui pourraient s'être créés un mois avant pour donner des infos mais dont, encore une fois, on ne connaît pas la provenance.
Selon vous, les réseaux sont-ils bénéfiques ou non ?
Les réseaux sont-ils bénéfiques ? Oui et non. Parce que oui, parce que c'est quand même une mine d'or en termes d'information. Une fois qu'on a trié, une fois qu'on a les clés et les outils pour vérifier les informations, vérifier les sources, il y a quand même énormément de choses qui circulent, donc énormément de choses à voir, à prendre. C'est très rapide, les réseaux sociaux. Vous avez des vidéos. Si les vidéos sont vraies et certifiées, elles peuvent être mises sur les réseaux sociaux tout de suite. C'est une facilité aussi pour toucher les gens, pour diffuser une information très rapidement, puisque tout le monde a le portable dans la poche. Le mauvais côté, c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la difficulté d'identifier qui nous parle, la difficulté de tomber dans des fake news, la difficulté de se faire avoir par des comptes qui ont des intérêts à avoir des gens qui s'abonnent à eux, qui ont des pubs sur leurs comptes, donc qui ont besoin d'avoir de la visibilité, et qui, pour faire ça, font des contenus très accrocheurs, du buzz, pour que les gens viennent sur leurs comptes. C'est assez... Il y a deux côtés, il y a deux faces dans les réseaux sociaux. Il y a une jolie face et une face sombre qui prend souvent le pas sur la face la plus jolie des réseaux sociaux, qui a vraiment une utilité. Parce que pour les journalistes, ça permet aussi de s'adresser à son public. Avant, dans les journaux, il y avait le courrier des lecteurs. C'est-à-dire que les gens prenaient un papier, un stylo, et ils écrivaient une lettre au journal en disant « Moi, je pense que dans votre article, là, ça, c'était pas bien. Ou au contraire, votre article m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, c'est différent. Tu t'adresses aux gens sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Tu réponds avec des community managers, les CM, qui viennent discuter avec les journalistes, avec les auditeurs, avec les gens qui sont sur les réseaux.
Et la Radio France Bleu Bourgogne possède-t-elle son propre réseau sur lequel les auditeurs peuvent réagir ?
Alors, la Radio France Bleu Bourgogne, elle a plusieurs réseaux sociaux. Elle a Facebook, elle a Twitter, aujourd'hui c'est X, et elle a Instagram. Elle pourrait en avoir plus, mais elle a décidé d'avoir cela, parce que la radio, elle s'adresse à un public bien défini. C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. On s'adresse à des gens en particulier. France Bleu Bourgogne, si elle voulait vous parler à vous, qui avez 14 ans, elle n'utiliserait pas Facebook, puisque aucun d'entre vous n'est sur Facebook. Donc nous, notre public, c'est plus les gens qui ont 40, 50, 60 ans. Donc on est sur ces réseaux sociaux-là pour leur parler. Et elle a ces trois réseaux sociaux-là, plus son application, plus le site, mais qui ne sont pas vraiment considérés comme des réseaux sociaux.
Est-ce que vous êtes souvent confronté à des propos violents de la part des auditeurs sur vos réseaux ?
Alors souvent, non. Heureusement, parfois, oui, ça arrive. Des auditeurs qui n'aiment pas ce qu'on a écrit, qui sont véhéments parce qu'il y a eu une faute d'orthographe. Ça arrive beaucoup. Il faut être très bon en orthographe pour être journaliste parce que sinon, on nous rate pas. Qui ne sont pas d'accord avec certaines personnes qu'on a interviewées. Si vous interviewez un homme politique de gauche, eh ben, les gens sur les réseaux sociaux de droite vont dire « moi, je suis pas d'accord ». L'inverse est possible aussi. Donc, vous avez souvent des gens qui viennent sous les publications pour parler. Mais très souvent, sur les réseaux sociaux, seuls les mécontents viennent parler. Les gens très heureux, très contents, qui ont lu votre article, qui l'ont apprécié, ne vont pas venir mettre un commentaire dessous en disant « super votre article, j'ai apprécié ». Non. C'est comme quand vous regardez les sites pour TripAdvisor, pour les restaurants, ou les hôtels, ou les choses comme ça. Quand vous voyez les notes Google, tous les avis que les gens donnent sur telle ou telle enseigne, vous avez souvent que des avis négatifs. Parce que les gens qui ont bien mangé, ils vont pas dire « c'était bon ». Mais les gens qui, en revanche, ont eu un problème avec leur commande, ou c'est arrivé en retard, ou c'était froid, ou c'était pas bon, là, ils vont pas se priver pour le dire. Ben, pour les réseaux sociaux des médias, c'est un petit peu pareil. On a souvent de l'aigreur, un peu de haine, de violence sous les posts, et c'est ce qui ressort le plus.
Comment réagissez-vous ?
Quand il y a un post violent ou un commentaire violent, des propos violents sous une publication, le mieux, alors c'est pas de pas réagir, mais c'est déjà de pas répondre. De manière nominative, c'est-à-dire moi, Adrien Beria, journaliste à France Bleu, je ne vais pas répondre à une personne qui m'insulte, une personne qui a des propos violents. Sinon, c'est remettre une pièce dans la machine, c'est mettre de l'huile sur le feu et ça fait des débats interminables. Bon, il n'y a pas lieu de faire ça. En revanche, les médias ont ce qu'on appelle des community managers et des modérateurs. Un modérateur, il a déjà des obligations, c'est-à-dire de repérer les propos qui sont contraires à la loi, les propos racistes, les propos homophobes. Tous les propos qui rentrent pas dans le cadre de la loi et qui sont punissables, ces modérateurs sont là pour les faire disparaître, pour les signaler. Sur Internet, on signale les choses qui sont contraires à la loi. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont plutôt répondre aux propos injurieux pour préserver en fait la santé de tout le monde sur Internet, dans les posts. Parce que si tous les commentaires ne sont qu'un déferlement et un torrent de haine sur Internet, c'est terrible pour personne, et même pour les gens qui n'ont rien à voir et qui viennent juste sur cette page, ils vont eux aussi être confrontés à ça. Voilà pour ce qui est la réponse aux propos violents.
Alors d'après vous, comment les médias traditionnels pourraient-ils attirer plus les jeunes ?
Ça, c'est un peu à vous de me le dire. C'est compliqué parce qu'on voit que les jeunes... dans votre classe, peu on dit avoir écouté la radio, peu écoutent la radio. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Quand tout à l'heure, on a fait un petit tour, beaucoup de mains sont levées quand on a parlé de TikTok, quand on a parlé de Twitch, quand on a parlé d'Instagram. Donc, ce serait peut-être aller vers vous, d'aller vers les plus jeunes, d'aller vers les collégiens, d'aller vers les lycéens, pour les trouver là où ils s'informent. Donc, sur Twitch, donc sur Instagram, donc sur TikTok. Mais c'est aussi... un problème, parce que nous, c'est pas vraiment ce qu'on sait faire. Moi, ce que je sais faire, c'est de la radio, c'est faire des articles, c'est faire de la vidéo, c'est faire de la photo, mais on n'a pas forcément les codes pour être sur ces réseaux sociaux-là, pour être sur TikTok, pour être sur Instagram, pour être sur Twitch. Donc, il faut faire une sorte d'entre-deux. Il faut essayer d'y aller pour que les informations vous parviennent quand même, mais c'est pas garanti que vous veniez non plus. Et ensuite, si on commence à faire ça, ce sont des formats, par exemple les réels sur Instagram, tout ce qui est story, c'est très court. Et l'information, elle a parfois besoin d'être un peu plus longue pour être comprise et pour être expliquée. Si vous avez des médias qui font des articles dans des journaux sur 2, 3, 4 pages, c'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir d'écrire ou le plaisir de vendre du papier, ou des interviews qui durent 20 minutes. C'est parce que parfois, il y a besoin de plus de temps pour comprendre, pour intégrer l'information, pour intégrer ce que les personnes ont à nous dire. Et les réseaux sociaux font que les formats se raccourcissent de plus en plus. Donc, je ne sais pas si c'est souhaitable non plus que, par exemple, une radio comme France Bleu Bourgogne vienne sur ces réseaux-là où c'est de plus en plus court.
Nous vous remercions beaucoup, M. Berriat, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir consacré de votre temps.
Alors, les amis, c'est vos métiers à écouter la radio. Essayez, c'est pas risqué. Peut-être que vous allez aimer. Et pour poursuivre la réflexion, retrouvons les fameux conseils culture de Clara, Maïlou, Nariman et Tipeee.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Voici le moment culture de notre émission, présenté par Maïlou, Clara et Nariman. Dans cette rubrique, nous allons vous présenter une série, des livres et une musique.
La série s'appelle You, elle est trouvable sur Netflix. C'est un thriller psychologique. Elle est adaptée d'un roman écrit par Caroline Kepnes. Le personnage principal s'appelle Joe Geldenberg. Il tient une librairie et va tomber amoureux d'une de ses clientes et va ainsi l'espionner sur Internet pour savoir en permanence où elle se trouve. C'est du stalkage et c'est puni par la loi.
Maintenant, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « La Ligue des Amis Imaginaires ». C'est l'histoire de Luna, une adolescente sans amis. Un jour, elle va poster un message en ligne. Par hasard, Santi et Astria, vivant à l'autre bout du monde, vont tomber dessus et lui répondre. C'est comme ça qu'une amitié va se créer. Mais un jour, Lina ne postera plus de nouvelles et du coup, ses amis vont s'inquiéter. Astria va partir et découvrir ce qui se passe avec l'aide de Santi à distance.
Bonjour, je vais vous présenter la chanson de Carmen Stromae. Elle est fortement inspirée de la chanson de Georges Bizet. Elle parle d'un petit oiseau bleu qui petit à petit grandit et finit par engloutir son dresseur. C'est une métaphore pour parler de Twitter, des dangers de devenir addict aux réseaux sociaux.
Merci de nous avoir écoutés et rien de mieux d'écouter cette musique. Je vous laisse donc avec Carmen de Stromae.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah les amis, les potes, les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. S'aime, 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 s'aime. L'amour est enfant de la consommation. Il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Prends garde à toi. Puis j'en connais, je l'ai danger. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais l'échanger, moi. Prends garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux. garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on vivra tous comme des rats.
Chers auditeurs, Mathias n'y tient plus. C'est l'heure de sa blague incontournable. La blague nulle. Je veux dire la blague drôle, sans blague.
Salut à tous, voici ma devinette. Quel est le comble pour un téléphone dans un sous-marin? Être en mode avion.
Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Avant de nous quitter, nous allons retrouver Apolline et Léa pour le mot de la fin. Aujourd'hui, le mot social ou société.
Alors, Apolline, est-ce que tu saurais nous expliquer d'où vient le mot société ?
Le mot société tient son origine du mot societas en latin, qui signifie association ou réunie en communauté. Alors, épaté Léa ? Et toi, tu pourrais nous indiquer le sens du mot social ?
Tout à fait. Le mot social vient du mot socius, qui voulait dire à l'origine compagnon. Cela désigne un ensemble d'individus organisés en groupe et les relations de ces individus entre eux.
Tous les humains, quoi ? Je connais peu qui vivent seuls sur une île déserte.
L'homme est un animal social, comme disait Aristote.
Oui, les réseaux sociaux n'ont rien inventé. En fait, les réseaux, c'est le café du commerce.
Sauf que les membres d'un réseau social ne pourraient pas tous tenir dans un café.
La société, c'est le collectif, la communauté, la compagnie. C'est quand même un beau mot qui parle de notre capacité de vivre ensemble.
De notre désir d'être ensemble même.
De notre besoin d'être ensemble.
Ouais, pas facile. Ni sur les réseaux, ni dans les cafés.
C'est pourtant ce qu'on apprend à l'école, dès la maternelle.
Il y en a qu'on sait chez apparemment.
Le mot social désigne l'organisation de notre vie ensemble. On parle de vie sociale, de milieu social et même de classe sociale.
On parle de cassos aussi.
Eh oui, aujourd'hui, on utilise l'expression cas social comme une insulte pour parler de quelqu'un qu'on trouve différent ou en marge. Mais on a tort. Un cas social est une personne en difficulté qui risque de se trouver exclue du groupe social. Ce n'est pas une insulte, c'est une situation grave dont la société tout entière doit s'occuper. En fait, dans la société, on est tous liés par un contrat.
Comme disait Jean-Jacques.
Goldman ?
Non, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du contrat social.
J'oubliais que tu étais une spécialiste des auteurs et des citations.
Chers auditeurs, n'oubliez pas, l'homme est un animal social.
Merci à la classe de 3e 5 pour leur travail.
Et à Adrien Berrière pour ses explications et son point de vue.
Mais surtout, merci à Madame Desbrières, chef d'orchestre de cette émission, sans qui il n'y aurait rien.
Et sur ce, on vous dit
au revoir tout le monde.